Deutsche Welle Carrefour Europe.
Bonjour à tous. Carrefour Europe vous propose cette semaine de faire un bond 100 ans en arrière. Nous sommes alors, vous l'aurez compris, en pleine Première Guerre mondiale. Les poilus souffrent, le sang se mêle à la boue dans les tranchées. À mesure que les mois passent, les soldats sur le front ouest jalousent leurs camarades engagés sur le front d'Orient. Des planqués, dit-on à l'ouest, retranchés sous le soleil de Salonique dans l'actuelle Grèce. Et pourtant, la vie de ces soldats n'a rien d'une partie de plaisir. C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec François Borreau, le réalisateur du documentaire « Un front oublié, le front d'Orient ». Carrefour Europe vous emmène également en Macédoine, sur les lieux de ce front. 100 ans plus tard, vous verrez que la mémoire des soldats d'Orient y est toujours entretenue. Monsieur François Borreau, vous êtes le réalisateur du documentaire « Un front oublié, le front d'Orient ». Et c'est vrai que quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense inévitablement aux tranchées de Verdun, à la Marne, à la Somme. En revanche, le front d'Orient n'évoque que peu de choses. Qu'est-ce qui explique cette amnésie historique ?
Donc, le front d'Orient est effectivement un front oublié. C'est un front oublié dès le début des événements. Et géographiquement, c'est... une idée de Churchill qui pense ouvrir un second front au début 1915 en allant attaquer les Turcs pour libérer les détroits dans la double idée de prendre les forces des empires centraux à revers et de permettre à la Russie d'avoir un débouché sur la mer Noire. C'est un échec. Et au lieu d'oublier l'idée que l'on pouvait réduire les Turcs, qui étaient beaucoup mieux organisés que les Alliés ne le pensaient, puisqu'ils étaient armés et aidés par les Allemands, eh bien les Alliés, et surtout Churchill, vont s'obstiner. Mais que va-t-on faire de ces troupes qui sont quand même parties assez loin ? L'idée, c'est de les redéployer en Égypte ou en Syrie, en même temps, parallèlement, les Autrichiens ont attaqué les Serbes. Et donc, on va débarquer à Salonique pour aider les Serbes. Donc, après la Turquie, le front va se déplacer vers la Grèce et le sud de l'Albanie.
On avait un important déploiement de soldats sur ce front, avec à la fois des Français, des Serbes, des Italiens, des Russes. Un intérêt stratégique au départ, qui est devenu finalement un intérêt secondaire. C'est ce qui explique que ce front soit oublié ?
Oui, il est oublié parce qu'effectivement, les plus grands combats se déroulent sur le front ouest. Le front d'Orient, c'est intéressant parce que c'est la première entreprise du côté allié où on peut dire que c'est une force multinationale. Il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Russes qui viennent pour aider le frère serbe.
Et ces soldats n'avaient pas une très bonne réputation auprès de leurs camarades à l'ouest.
Vous savez que Clémenceau avait eu cette formule ravageuse qui avait été extrêmement mal prise par les combattants d'Orient. Il avait parlé des jardiniers de Salonique. Parce qu'effectivement, les forces alliées ne bougeaient pas. Donc les jardiniers de Salonique aussi parce que ces malheureux soldats français étaient tellement mal ravitaillés du fait, un, de la distance, deux, du danger des sous-marins allemands, qu'ils avaient été obligés à mettre en culture des centaines d'hectares pour pouvoir manger des légumes et éviter le scorbut. Énormément de soldats étaient malades du fait du paludisme, des variations de température, il faisait un froid perçant en hiver, il faisait très très chaud l'été, donc il y avait les moustiques, on en parle peu, mais il y a eu des mutineries. En plus d'être mal nourris et mal ravitaillés, ils n'avaient pas de permission tellement la métropole était loin. En métropole, on croyait que le front d'Orient, c'était des vacances, c'était vraiment le soleil de la Grèce qui allait resplendir sur l'ensemble des soldats et qu'ils se faisaient bronzer tout simplement. Alors qu'ils étaient aussi mal traités que sur le front ouest et beaucoup plus malades, avec beaucoup de blessés et un ratio de morts aussi assez important.
Quelles ont été les conséquences de ces batailles également pour l'ensemble de la région ? On parle beaucoup des villages oubliés, et des villages disparus du côté de Verdun. Est-ce qu'il en a été de même du côté du front d'Orient ?
Non, c'est pas du tout un front qui est comparable à celui de l'Ouest dans la mesure où c'est un front discontinu avec certains endroits des tranchées, certains endroits des positions d'artillerie. C'est un paysage qui est très différent, qui est aussi aussi beaucoup plus rude. Enfin, il n'y a pas d'ombre, donc c'est très difficile de se cacher, de se camoufler. Les routes sont épouvantables. Le ravitaillement est très long à venir de la France à Salonique. C'est aussi très long à venir aussi de Salonique vers le front. Il n'y a pas de voie ferrée. Ça se fait par camion, mais surtout par mulet. Donc ça prend un temps vraiment considérable. Donc on ne parle pas d'eux de manière positive en métropole, mais ils vont aussi être oubliés à la fin de la guerre, puisque le 25 septembre, grâce à l'attaque des troupes françaises, serbes, italiennes, les Bulgares capitulent, mais on n'en parle pas. Et après la guerre, on ne va pas reconnaître ses mérites, qui sont quand même tout à fait extraordinaires, puisque c'est un des alliés des Allemands et des Autrichiens qui capitulent. Sur le coup, on ne se rend pas tout de suite compte que c'est le début de la chute des dominos des pays qui constituent l'Empire central. Et puis, le nombre de mobilisés sur le front ouest est tellement important, surtout que sur ce front, il y a eu encore une fois l'immense crainte, après l'offensive allemande de mars, avril, mai, d'être à nouveau battu, que c'est un tel soulagement de voir que les troupes alliées l'emportent enfin et avancent inexorablement sur le front ouest à partir de cette période de septembre que finalement ça ne compte plus, si vous voulez. On ne se rend pas bien compte de cet élément très important qui est la capitulation bulgare. Et non seulement on ne reconnaît pas leur mérite, mais ces soldats ne sont pas démobilisés tout de suite, et même certains soldats français vont aller combattre les bolcheviks jusqu'en 1919. Donc il y a un ressentiment de ces anciens combattants d'Orient contre la façon dont on les a traités, qui va perdurer très longtemps après la guerre, après la fin de la guerre.
Merci Monsieur François Bourreau, je rappelle donc que vous êtes le réalisateur de ce documentaire « Un front oublié, le front d'Orient ». Merci.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
1 million de soldats furent déployés sur ce front d'Orient entre 1915 et 1919. Les troupes de l'Entente, les Alliés, ont mené en Grèce et en Macédoine de rudes combats contre les soldats bulgares et allemands. Aujourd'hui, si le front d'Orient n'occupe pas les premiers chapitres des livres d'histoire, le souvenir de ces affrontements reste tout de même très présent dans la mémoire collective des habitants de la région. Reportage en Macédoine de Laurent Gélin et Simon Rico.
Au sud de la Macédoine, dans les faubourgs de Bitola, ils sont plus de 20 000 à être enterrés dans le cimetière français. La majorité de ces soldats venaient de métropole, beaucoup étaient aussi originaires du Maghreb, d'Afrique noire ou d'Indochine. Ils sont morts sur le front d'Orient, où ils étaient opposés aux troupes bulgares et allemandes. Kalliopa Krivashia Stilinovic, consul de France à Bitola, a longtemps accueilli les descendants de ses victimes. Mais les visites se font de plus en plus rares.
Chaque année, il y avait la venue d'une délégation des anciens combattants, des poilus d'Orient, qui faisait le grand périple de la Première Guerre mondiale, sur les sentiers de la Première Guerre mondiale. Bitola était toujours l'événement phare sur leur agenda. Ça s'est arrêté il y a 5 ans, pas plus.
À la fin 1915, alors que les Allemands percent le front serbe, Paris décide d'envoyer des troupes pour contenir l'avancée des Bulgares en Macédoine. Basés dans un premier temps autour de Salonique, dans l'actuelle Grèce, les soldats alliés reprennent progressivement l'initiative et s'enterrent pendant plus de 2 ans sur un front long de 600 km. Basé à Skopje, la capitale de la Macédoine, l'historien Fabien Schaeffer arpente depuis des années les lieux de ces batailles.
Dans un concept pour les Bulgares et les Allemands de fortification en dur, parce qu'on ne va pas lâcher le terrain qui a été conquis, alors que les autres armées serbes et françaises sont là pour gagner du terrain. Donc elles rechignent un peu plus à s'enterrer de façon prolongée, disons.
Fabien Schaeffer est à la recherche des traces et des mémoires de la Première Guerre en Macédoine.
J'ai rencontré le dernier habitant d'un petit village qui m'a raconté des histoires assez intéressantes sur la guerre et dans le village. Et le souvenir, c'était surtout que les Français leur apportaient quand même la nourriture. Et ça, c'était très très important à cette époque où c'était extrêmement difficile de cultiver, donc la population manquait de tout.
On a parfois appelé ironiquement ces hommes les jardiniers de Salonique. pour leur inactivité supposée sur le front. En Grèce, les soldats de l'armée d'Orient ne semblent avoir laissé que de bons souvenirs, comme l'explique Christophe Le Rigoleur, consul de France à Thessalonique.
Sur l'ensemble de la période, c'est je crois plus de 350 000 soldats français qui passent à Thessalonique, donc c'est quand même pas rien. C'est quand même les Français qui ont contribué à la création, à la construction de beaucoup de routes, de voies ferrées, de ponts, qui ont asséché des zones marécageuses, qui ont introduit des nouvelles méthodes agricoles, qui ont introduit des nouvelles méthodes en matière vitivinicole, qui ont introduit de nouveaux cépages. Donc dans cette région, dans ce nord de la Grèce d'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de traces tout à fait palpables de la présence militaire française. Et ça, c'est quelque chose auquel les gens d'ici sont attachés.
À partir de la fin de l'été 1918, les Alliés percent le front dans la montagne macédonienne et remontent vers Belgrade. Plusieurs dizaines de milliers de victimes de ces combats sont enterrées dans le cimetière de Zeytinlik, à Thessalonique. Comme son père et le père de son père avant lui, George Mihailovitch, 87 ans, est le gardien du carré serbe.
En bas, on a 6000 soldats. Ils sont tombés sur le front principalement au Kajmakchalan. Vous voyez, le front d'Orient, il allait de la frontière albanaise à la frontière bulgare. Les gens sont morts là-bas, on les a enterrés sur place et puis on les a ramenés ici. On a aussi beaucoup de Français dans notre cimetière. Ils sont surtout morts de maladie. Il y avait la malaria ici.
Comme tous les jours depuis plus de 50 ans, George Mihailovitch bêche, bine et ratisse les allées du cimetière, au centre duquel s'élève un immense ossuaire.
C'est ouvert tous les jours. Les ossements sont conservés dans des coffres de marbre et sur chaque plaque sont identifiés le nom et la date de naissance du soldat dès que cela a été possible. Mais il n'y a pas de guerre sans soldats inconnus.
Laurent Gélin et Simon Rico, Skopje pour la Deutsche Welle.
C'est la fin de cette émission Carrefour Europe, une émission que vous pouvez bien entendu réécouter sur notre site www.de/français dans la rubrique Europe. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Carrefour Europe.